Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission « Il était une fois en Cornouailles » sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles. Et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouailles bretonne. Aujourd'hui, en ce début d'année 2021, d'abord je voudrais vous présenter mes vœux. De toute façon, cette année pourra difficilement être pire que la précédente. Donc, comme on dit en Cornouailles bretonne, bonne année, bonne santé, de l'argent sous l'oreiller et le paradis à la fin de votre vie. Maintenant, je voudrais aussi vous parler de celui qui se balade sur les hauteurs de Cornouailles pour voir tous ceux qu'il va emmener dans l'année qui vient, celui dont le seul nom continue encore aujourd'hui à imposer un silence craintif, j'ai nommé Lancou, le terrible ouvrier de la mort qui vient chercher à leur dernière heure, et où qu'il se trouve, tous ceux qui sont nés en Bretagne. Puis, ensuite, pour finir sur une note plus légère, je tenterai, dans une seconde partie, de relever le défi d'avoir improvisé une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous aura envoyé sur la page Facebook de notre association pendant la semaine. Bien que nous ayons terminé la période des mois noirs depuis le solstice d'hiver, les nuits sont encore plus longues que les jours, donc les bugalets de Noz, les enfants de la nuit, sont toujours très puissants. N'oubliez donc pas, si vous vous promenez après le coucher du soleil, de vous déplacer par trois, si vous êtes baptisé, car les Anaons, Corrigan et autres démons ne peuvent rien contre trois baptêmes. Si vous ne le pouvez pas, apprenez à courir vite ou munissez-vous d'un carspren, cette petite fourche de bois qui servait à nettoyer le soc des charrues et passait pour tenir à distance les créatures surnaturelles hostiles. Parmi ces dernières, la plus terrible est sans doute Lancou. Selon Anatole Le Braz, Lancou est l'ouvrier de la mort, Oberur Armaro. C'était le dernier mort de l'année dans chaque paroisse qui devenait Lancou de cette paroisse pour l'année suivante. Il restait ainsi coincé sur terre pendant un an, ce qui le mettait de mauvaise humeur, d'autant plus qu'il avait tout le loisir de voir les autres défunts s'en aller vers leur destin dans l'au-delà. S'il s'agissait d'un homme, beaucoup de femmes mouraient l'année suivante, et inversement. Idem, s'il s'agissait d'un vieux, beaucoup de jeunes devaient mourir sous son office. On disait que Lancou se vengeait en emmenant ses opposés. Si Lancou était présentable en début d'année suivante parce qu'il était mort depuis peu de temps, la décomposition aidant, son aspect empirait au fur et à mesure que le temps passait, pour ne plus être qu'un squelette avec des lambeaux de chair en fin d'année, terrorisant ceux qu'il venait chercher. Il valait donc mieux éviter de mourir pendant les mois noirs. On dépeint également parfois Lancou tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'un large feutre, tantôt sous la forme d'un squelette drapé d'un linceul et dont la tête vire sans cesse au haut de la colonne vertébrale, ainsi qu'une girouette autour de sa tige de fer, afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir. Dans l'un et l'autre cas, il tient à la main une faux. Celle-ci diffère des faux ordinaires en ce qu'elle a le tranchant tourné en dehors. Aussi, Lancou ne la ramène-t-il pas à lui quand il fauche, contrairement à ce que font les faucheurs de foin et les moissonneurs de blé, il la lance en avant, et il se sert d'un ossement humain pour l'aiguiser. Quelquefois, il en fait redresser le fer par les forgerons qui, sous prétexte d'ouvrages pressés, ne craignent pas de tenir leur feu allumé le samedi soir après minuit. Mais le forgeron qui a travaillé pour Lancou ne travaillera plus ensuite pour personne. Outre sa faux, Lancou se déplace avec une charrette dans les terres et une barque en bord de mer. La charrette de Lancou, Carrick ou Carriguel à Nancou, est faite à peu près comme les charrettes dans lesquelles on transportait autrefois les morts. Elle est traînée d'ordinaire par deux chevaux attelés en flèche. Celui de devant est maigre et flanqué et tient à peine sur ses jambes. Celui du timon est gras, a le poil luisant et est franc du collier. Lancou se tient debout dans sa charrette. Il est parfois escorté de deux compagnons qui, eux, cheminent à pied. L'un conduit par la bride le cheval de tête, l'autre a pour fonction d'ouvrir les barrières des champs ou des cours et les portes des maisons. C'est lui aussi qui empile dans la charrette les morts que Lancou a fauchés. Tout cela me rappelle un conte de 1890 qu'Anatole Le Braz avait recueilli auprès de Madame Françoise Omnès de Bégard. Un soir, en juin, un jeune homme de 13 élans était allé conduire les chevaux au pré. Comme il s'en revenait en sifflant dans la claire nuit, car il y avait grande lune, il entendit venir à l'encontre de lui, par le chemin, une charrette. Il fut certain qu'il s'agissait de la Carriguelen Ancou, la charrette de l'Ancou. « À la bonne heure, se dit-il, je vais donc voir enfin de mes propres yeux cette charrette dont on parle tant. » Et il escalada le fossé où il se cacha dans une touffe de noisetiers. De là, il pouvait voir sans être vu. La charrette approchait. Elle était traînée par 3 chevaux blancs attelés en flèche. 2 hommes l'accompagnaient, tous 2 vêtus de noir et coiffés de feutre au large bord. L'un d'eux conduisait par la bride le cheval de tête, l'autre se tenait debout à l'avant du char. Comme le dit char arrivait en face de la touffe de noisetiers où se dissimulait le jeune homme, l'essieu eut un craquement sec. « Arrête !» dit l'homme de la voiture à celui qui menait les chevaux. Celui-ci cria « Oh !» et tout l'équipage fit halte. « La cheville de l'essieu vient de casser, » reprit l'Ancou, car c'était lui. « Va couper de quoi en faire une neuve à la touffe de noisetiers que voici. » « Je suis perdu !» pensa le jeune homme qui déplorait bien fort en ce moment son indiscrète curiosité. Il n'en fut cependant pas puni sur le champ. Le charretier coupa une branche, la tailla, l'introduisit dans l'essieu, et cela fait, les chevaux se remirent en marche. Le jeune homme put rentrer chez lui sain et sauf, mais vers le matin, une fièvre inconnue le prit, et le jour suivant, on l'enterrait. Et paf, un enterrement. Dans l'émission d'aujourd'hui, ça ne rigole pas, hein. Quiconque veut croiser l'Ancou le fait au péril de sa vie. Mais c'est injuste, me direz-vous. Oh, que non, malheureux, il n'y a pas plus juste que l'Ancou, au contraire, pour lui, personne ne peut échapper à son sort. Seule l'enchanteresse Aès de Carhaix y est parvenue, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une prochaine émission qui lui sera consacrée. Heureusement, l'aventure de Gab Lucas montre qu'il était parfois possible pour un humain normal de survivre à une rencontre avec le terrible ouvrier de la mort. Gab Lucas était journalier à Runrioux. Chaque soir, il s'en retournait à Kerdrenken où il demeurait avec sa femme et ses 5 enfants. Il demeurait là-bas dans la plus misérable chaumière de ce pauvre village. Gab Lucas n'avait pour faire vivre les siens que les 10 sous qu'il gagnait chaque jour péniblement. Cela ne l'empêchait pas d'être gai de caractère et vaillant à l'ouvrage. Les maîtres de Runrioux l'estimaient fort. La semaine finie, ils l'engageaient régulièrement à passer avec eux la veillée du samedi soir où l'on buvait du flip, ce mélange de cidre chaud et de calvados sucré au miel, en mangeant des châtaignes grillées. Sur le coup de 10 heures, on se séparait. Le fermier remettait à Gab sa paye de la semaine et la ménagère y joignait toujours quelques cadeaux pour la maisonnée de Kerdrenken. Un samedi soir, elle lui dit « Gab, j'ai mis de côté pour vous un sac de pommes de terre. Vous le porterez de ma part à Madeleine Dénès, votre épouse. » Gab Lucas la remercia, jeta le sac sur son dos et se mit en route après avoir souhaité le bonsoir à chacun. De Runrioux à Kerdrenken, il y a bien 3 kilomètres. Gab marcha d'abord allègrement. La lune était claire et le bon flip qu'il avait bu lui faisait chaud dans l'estomac. Il sifflotait un air breton pour se tenir compagnie, tout heureux de la joie qu'aurait son épouse en le voyant rentrer avec un beau sac de pommes de terre. On en ferait cuire le lendemain une pleine marmitée. On y ajouterait une tranche de lard et tout le monde se régalerait. Cela alla bien l'espace d'un quart de lieue. Mais au bout de ce temps, la vertu du flip s'étant dissipée à la fraîcheur de la nuit, Gab sentit toute la fatigue de sa journée lui revenir. Il commença à trouver que le sac de pommes de terre lui pesait lourd sur les épaules. Bientôt, il n'eut plus de cœur à siffler. « Ah, si du moins, pensait-il, je faisais rencontre de quelques rouliers, mais je n'aurais pas cette chance. » Il arrivait à ce moment près du calvaire de Kerentour où s'amorce à la grande route le petit chemin de Nizilzi qui mène à la ferme du même nom. « Ma foi, se dit Gab, je vais toujours m'asseoir un instant sur les marches de la croix pour reprendre haleine. » Il déposa son fardeau, s'assit à côté et, ayant battu le briquet, alluma sa pipe. La campagne s'étendait au loin silencieuse. Il entendit alors, dans le petit chemin creux, le bruit d'une charrette. Allons, se dit Gab, voilà mon vœu prêt d'être exaucé. Ce sont sans doute les gens du manoir voisin qui rentrent. Ils me porteront mon sac jusqu'à mon seuil. Il vit déboucher les chevaux, puis la charrette. Ils étaient terriblement maigres et efflanqués, ces chevaux. Quant à la charrette, elle avait pour fond quelques planches disjointes et deux clés branlantes qui lui servaient de rebord. Un homme de haute taille, un grand escogriffe aussi décharné que ses bêtes, conduisait ce piteux attelage. Un vaste chapeau de feutre lui ombrageait toute la figure. Gab ne put le reconnaître. Il le héla tout de même. « Hola, camarade, n'y aurait-il pas un peu de place dans ta charrette pour le sac que voici ? J'en ai le dos rompu. Je ne vais pas loin, à Kerdrenken seulement. » Le charretier passa sans répondre. « Ah, il ne m'aura pas compris, se dit Gab. Son affreuse charrette fait tellement de bruit. » L'occasion était trop belle pour lui, pourtant pour la manquer. Gab Lucas s'empressa d'éteindre sa pipe, la fourra dans la poche de sa veste, empoigna le sac de pommes de terre et courut après la charrette qui allait encore assez vite. Il finit par la rejoindre et il laissa tomber le sac en poussant un ouf de soulagement. Mais comment expliquer cela ? Le sac passa au travers des vieilles planches et chut, du verbe choir, à terre. Quelle espèce de charrette est-ce donc ceci ? Se dit Gab. Il ramassa le sac, voulut de nouveau le poser dans la charrette en le poussant cette fois plus avant, mais le fond de la charrette n'avait décidément aucune solidité, car le sac passa encore au travers, entraînant Gab Lucas. Tous deux roulèrent sur le sol. L'étrange attelage continuait cependant sa route. Son mystérieux conducteur n'avait même pas tourné la tête. Gab les laissa s'éloigner. Les chiens du voisinage se mirent à hurler à la mort. Quand l'étrange équipage eut disparu, Gab s'achemina à son tour vers Kerdrenken, où il arriva à moitié mort de peur. « Qu'as-tu donc ?» lui demanda Madeleine Dennis, le voyant tout défait. Gab Lucas raconta son aventure. « C'est bien simple, lui dit alors sa femme, tu as rencontré Carrigan en coup. » Gab faillit en faire une fièvre. Le lendemain, il entendit le glas tinter à l'église du bourg. Le maître du manoir voisin était mort la nuit précédente vers les 10h, 10h30. Peu de temps après que lui, Gab, ait rencontré l'Ankou et sa charrette. Mais qui était-il donc, cet Ankou si terrible ? Pour faire simple, la mort a toujours été personnifiée dans les folklores et les mythologies, mais l'Ankou n'a pas toujours eu l'importance qu'il a maintenant en Cornouailles. À l'origine, c'était même un personnage secondaire des légendes galloises, l'Ankeu, que les immigrés gallois du VIe siècle ont apporté avec eux lorsqu'ils sont venus s'installer en Cornouailles bretonne. Plus tard, au XVIIe siècle, à l'occasion de la contre-réforme, les jésuites qui voulaient réévangéliser le Finistère eurent besoin d'un personnage mythique pour effrayer les fidèles et les faire rester dans le droit chemin. Ils tentèrent d'abord d'impressionner les gens avec le diable, mais nos ancêtres avaient l'habitude des personnages mythiques cornus, notamment Kernounos, le dieu celte qui a durablement marqué la région de son empreinte. Alors, les jésuites remirent l'Ankou au goût du jour en le faisant représenter dans les églises sous forme de statues, de vitrail ou de peintures sur des panneaux de bois et en insistant sur son côté effrayant et implacable. L'Ankou acquit à cette occasion une célébrité qui ne l'a plus jamais quittée. Notre association a d'ailleurs recueilli des témoignages de personnes dignes de foi qui, encore aujourd'hui, sont persuadées de l'avoir vu ou d'avoir entendu le bruit de sa charrette avant la mort d'un proche. Alors l'Ankou, mythe ou réalité, chacun de vous se fera sa propre opinion. Maintenant, nous allons nous remonter un peu le moral avec la chanson Ménès Daou des Ramoneurs de Menhir. Quel est le rapport avec l'Ankou, me direz-vous ? Allez voir leur clip sur YouTube, vous comprendrez.
pour écouter si un bisou t'a marré.
Voilà qui termine la première partie de notre émission. Il va s'agir maintenant pour moi de relever le défi de créer une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a fait parvenir à notre association. Aujourd'hui, un conte qui s'inscrit dans la continuité de notre propos sur l'encou, c'est Marie-Amélie qui nous a envoyé les éléments suivants pour improviser un récit. Une sorcière, l'encou, un kevni de nose, un meunier, un pont de liane, un précipice, une muraille de pierre, une lande, la forêt de Huelguat, une boulangerie, une bourse d'or, une porte, une paire de lunettes et un bâton d'enchanteur. Voilà beaucoup d'éléments donc pour Marie-Amélie. Alors, il était une fois une gentille sorcière qui aimait rendre service aux gens. Cependant, comme il s'agissait quand même d'une sorcière, certains dans son village ne l'aimaient pas. Un jour, quelle ne fut pas sa surprise de voir arriver jusque chez elle le meunier qui faisait justement partie de ses détracteurs. Tout penaud, il lui expliqua qu'il regrettait son hostilité passée envers elle et qu'il venait la voir parce que sa petite fille était gravement malade. Comme les docteurs lui avaient dit ne rien pouvoir faire, il avait eu l'idée de venir lui demander de l'aide à elle. La sorcière n'était pas rancunière, aussi accepta-t-elle de suivre le meunier jusque chez lui. Lorsqu'elle vit sa petite fille toute pâle dans son petit lit au drap blanc, elle sut exactement et immédiatement de quoi il retournait. Elle prit sa petite tête blonde dans sa main et la souleva délicatement. Derrière, à la base de son crâne, se trouvaient deux petits points rouges l'un à côté de l'autre. « Ta fille a été mordue par une kevnidnose, une araignée de la nuit, cette créature malfaisante, moitié lutin, moitié araignée. Je dois la capturer pour recueillir un échantillon de son venin afin de pouvoir faire une potion qui guérira ton enfant. Dépêchons-nous, tu vas m'aider. Mets ces lunettes magiques qui te permettront de la voir aussi. » Dès qu'il les eut sur le nez, le meunier vit la kevnidnose sur une poutre au-dessus du lit de sa fille qui la regardait avec un sourire mauvais. « Elle est là-haut » cria-t-il à la sorcière en la montrant. Cette dernière lança aussitôt un filet qui recouvrit la méchante araignée. « Trop tard !» dit la créature avec une horrible voix. « Trop tard! N'entendez-vous pas la charrette de l'Ankou approcher ?» Effectivement, le meunier et la sorcière entendirent le grincement caractéristique de la roue de la charrette de l'Ankou. « Ma petite fille est perdue !» sanglota le meunier. « Non, pas encore !» répondit la sorcière tout en sortant un grand bâton de son petit sac. « Voici le bâton de l'enchanteur Merlin qu'il m'a confié quand il a su qu'il n'en aurait plus besoin avec Viviane. Prends-le et donne-le à l'Ankou en lui demandant de le tenir parce que tu veux installer ta fille toi-même dans sa charrette. Il ne pourra alors plus bouger. Il criera de rage et te menacera, mais tu lui diras que c'est moi qui t'ai dit de le faire et qu'il faut qu'il attende mon retour car je veux le voir et lui donner quelque chose à la place de ta fille. » Aussitôt dit, la sorcière sortit en courant de la maison du meunier. Elle fila comme le vent jusqu'à la forêt de Belguat où elle récupéra toutes sortes de lianes, puis elle continua de courir jusqu'au bord d'un immense précipice. Là, elle fabriqua un pont avec ses lianes et le lança par-dessus le gouffre, ce qui lui permit de le franchir. Elle récupéra ensuite ses lianes pour en faire une échelle qui lui permit d'escalader une muraille de pierre qui se dressa soudain devant elle. De l'autre côté, elle arriva dans une lande au milieu de laquelle se trouvait une boulangerie. Mais pas n'importe quelle boulangerie, la boulangerie des fées, la boulangerie qui faisait les meilleurs gâteaux du monde. Elle frappa à la porte, une jolie porte sculptée avec des viennoiseries et des pâtisseries, puis attendit qu'on vienne lui ouvrir. Quand ce fut le cas, un petit korrigan recouvert de farine lui demanda ce qu'elle voulait. La sorcière sortit une bourse d'or de son sac, la lui donna, et commanda le gâteau que l'Ankou préférait. Le korrigan s'en alla avec la bourse et revint avec un gros gâteau à la crème que la sorcière emporta immédiatement. Le trajet du retour fut compliqué, pensez donc. Escalader une muraille et franchir un précipice avec des lianes tout en tenant un gros gâteau. Mais elle y parvint car notre gentille sorcière était tenace. Elle revint chez le meunier pour y constater que l'Ankou était immobilisé, tenant toujours le bâton de l'enchanteur Merlin. La sorcière lui déclara qu'elle était allée lui chercher son gâteau préféré pour qu'il laisse la petite fille. Acceptait-il le marché ? L'Ankou ne réfléchit qu'une seconde, puis opina du chef, en voyant le bon gâteau qui semblait l'attendre. L'Ankou serait-il un bon vivant ? Ce serait un comble, hein, avouons-le. Le meunier reprit le bâton. L'Ankou prit le gâteau et s'en alla, sans demander son reste et en laissant la fille. Du coup, la sorcière eut le temps de préparer la potion de guérison pour la petite fille du meunier, ne demandant pour paiement qu'une bourse d'or comparable à celle qu'elle avait donnée au korrigan de la boulangerie des fées, et tout se termina bien pour tout le monde, sauf pour la kevnidnose qui fut chassée et ne put jamais revenir. Voilà Marie-Amélie, je pense que tous vos éléments sont dans cette histoire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, vous, sur notre page Facebook. Cela clôt notre émission d'aujourd'hui, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles », 26 minutes en terre des fées, rien que pour vous, avec la maison des contes et légendes de Cornouailles, Kenavo, Avéchal et surtout Blavesmat.